Nous allons maintenant continuer pour la deuxième partie de la vie d'Abraham. Et je lis en Genèse 12 au verset 10. Et il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Voilà tout d'un coup un grand problème dans la vie d'Abraham. Et on peut se demander, lorsque nous rencontrons des problèmes, lorsque nous allons sur le chemin de Dieu, est-ce que c'est une preuve que nous ne sommes pas sur le bon chemin? Eh bien, nous avons des exemples dans la parole de Dieu, comme 1 Corinthiens 16, Paul dit, étant à Éphèse, en écrivant la première aux Corinthiens, il dit, « Une grande porte est ouverte. » Et il y a beaucoup d'ennemis. Donc, il était sur le bon chemin et Dieu était avec lui, mais il y avait des grands obstacles, des grandes difficultés. Donc, on ne peut pas dire, par principe, des problèmes, des difficultés, aussi, par exemple, des difficultés de maladie ou ici, de famine, soit une preuve que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Mais ça se peut, bien sûr. Mais ce n'est pas une preuve. Mais dans le cas d'Abraham, il fallait se demander, est-ce que Dieu veut me dire que je suis sur un faux chemin ou est-ce que c'est simplement un obstacle qui teste ma foi? Eh bien, Abraham ne se demande pas. Il descend en Égypte pour y séjourner, pour éviter le problème au pays de Canaan. Pourquoi il va en Égypte? N'est-ce pas, lorsqu'il y avait plus de la pluie au pays de Canaan, on avait la possibilité effectivement d'aller en Égypte, un pays avec très peu de pluie, mais qui ne dépendait pas de la pluie. Mais le Nil que vous voyez ici apporte depuis l'Afrique noire tant de bonnes eaux. Donc on avait là la possibilité pour survivre lorsqu'on avait un problème au pays de Canaan. C'est pour ça qu'Abraham descend en Égypte. Est-ce que Dieu a voulu qu'Abraham aille en Égypte? Non. Il l'a amené au pays de Canaan. C'était là le but. Il fallait être un témoin, là, parmi les Cananéens, mais pas en Égypte. C'était pas sa mission. Plus tard, Joseph sera un témoin, un missionnaire en Égypte. Mais Abraham, un témoin au pays de Canaan. Donc, il faut se demander où est-ce que Dieu veut m'avoir et puis il ne faut pas aller ailleurs. Abraham aurait dû se poser la question, est-ce qu'il y a peut-être toujours encore un blocage dans ma vie? Ah oui, Lot, mon neveu, il est toujours avec moi. Il a pris, dit le texte biblique, lorsqu'il partait de Charan, il a pris Lot pour aller au pays de Canaan. Donc, le problème Lot n'était toujours pas résolu. Et lui faisait partie de la parenté d'Abraham. Et Dieu a clairement dit, il faut partir, sortir de la parenté, et bien sûr de la maison du Père. Ce n'est pas bien lorsqu'on continue et puis qu'on ne règle pas toujours ce détail de désobéissance. Et voilà, un problème donne un autre problème. Genèse 12, verset 1er, verset 11. Et il arriva, comme il était prêt d'entrer en Égypte, qu'il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de visage. » Et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Ils me tueront et te laisseront vivre. Dis, je te prie que tu aies ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi et que mon âme vive à cause de toi. Abraham était à cette époque 75 ans. Il avait 75 ans. Et sa femme, nous le savons par d'autres passages, avait 10 ans de moins, 65. Il avait peur qu'elle soit trop belle en Égypte. Et effectivement, les rabbins, dans leur littérature, ils louent particulièrement la beauté extraordinaire de Saraï. Elle était à 65 encore, si belle qu'il fallait avoir peur que les Égyptiens vont tuer Abraham pour prendre cette femme. Ça, c'est possible. Mais il est aussi remarquable en 1 Pierre 3, lorsque Pierre parle du comportement extérieur des femmes croyantes, il donne comme exemple Sarai. Et il parle de l'importance d'une beauté qui vient de l'intérieur. Et là, il parle de Sarai, ce qui veut dire que Sarai n'était pas caractérisée par des choses extérieures qu'il fallait, par lesquelles elle voulait faire augmenter la beauté. Elle n'avait pas besoin d'avoir trop de choses comme ça, mais elle l'avait par cette foi personnelle en l'Éternel, par cette relation personnelle avec l'Éternel, elle avait une beauté extraordinaire. Et elle est donnée en 1 Pierre 3 comme l'exemple des femmes et de leur comportement extérieur, caractérisé par la foi. Et voilà, Abraham est conscient de cette beauté et en chemin vers le pays de l'Égypte, il dit, « Dis un mensonge, dis tu es ma sœur. » Voilà la désobéissance, amène Abraham à encourager Sarai à mentir. Bien sûr, on pourrait dire, « C'est pas un mensonge, c'est vrai, elle était la sœur d'Abraham. » Ah oui, c'est juste, le texte biblique le dit, dans un autre passage, que Sarai était la demi-sœur d'Abraham. N'est-ce pas? Un tel mariage était plus possible à partir de l'exode d'Israël de l'Égypte, 1600. Là, dans la loi lévitique, au Lévitique, Dieu défend tous les mariages proches. Ils sont clairement mentionnés. Mais ici, dans cette époque, c'était encore possible. Comme autrefois, juste après la chute, lorsqu'on pose la question, d'où est-ce que Caïn a reçu sa femme? Et bien sûr, il y avait seulement Ève et Abraham, Adam et Ève, et ils avaient beaucoup d'enfants, des filles et des fils, dit Genèse 5. Alors, les premiers hommes, après Adam et Ève, ils ont dû se marier frères et sœurs. Mais à cette époque, c'était encore possible, puisque le code génétique était aussi encore pur. Il n'y avait pas le danger d'avoir des descendants avec des défauts. Mais à partir de l'Exode, Dieu a clairement dans la loi défendu de tels mariages. Juste pour expliquer. En plus, bien sûr, Abraham n'était pas un croyant autrefois lorsqu'il s'est marié. Mais il a marié sa demi-sœur. Mais lorsqu'elle doit dire « Je suis la sœur de cet homme », elle devait faire penser les Égyptiens, donc elle n'est pas son épouse. Et ça, c'est mentir. On peut mentir en disant la vérité. Mais là, peut-être on a un problème. Lorsqu'on a apporté des Bibles en ancienne Union soviétique et à la frontière, est-ce qu'il fallait dire la vérité? Qu'on a des Bibles. Il ne fallait pas dire on n'a pas de Bible, mais il fallait non plus dire nous avons des Bibles. N'est-ce pas? Il ne faut pas dire tout ce que nous savons à tout le monde, mais il ne faut pas faire penser les autres ce qui n'est pas vrai. Donc induire à l'erreur, ça c'est mentir. Et voilà la suite, verset 14. Et il arriva que lorsque Abraham entra en Égypte, les Égyptiens virent sa femme, qu'elle était très belle. Vous voyez, ce n'est donc pas subjectif. Et les princes du Pharaon le virent et la louèrent devant le Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison du Pharaon. Et il traita bien Abraham à cause d'elle. Et il eut du menu bétail et du gros bétail et des ânes et des serviteurs et des servantes et des ânesses et des chameaux. Le cher frère de Sarai reçoit tant de cadeaux du Pharaon. Et le Pharaon veut se marier à Sarai. C'est quand même remarquable, n'est-ce pas? Et en plus, Nous allons voir la réaction de l'Éternel. Verset 17. Et l'Éternel frappa de grandes plaies le Pharaon et sa maison à cause de Saraï, femme d'Abraham. Et le Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta femme? Pourquoi as-tu dit, elle est ma sœur, de sorte que je l'ai prise pour ma femme? Et maintenant, voici la femme, ta femme, prends-la et va-t'en. » Et le Pharaon donna ordre à ses gens, à son sujet, et le renvoyèrent, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui. Alors Dieu intervient dans cette catastrophe. Et voilà, Abraham devait recevoir une descendance avec Saraï. Et voilà, le diable a essayé de détruire cela par ce mariage avec le Pharaon. Mais Dieu intervient par des plaies sur l'Égypte. Et à cause de cela, la vérité est révélée finalement et le Pharaon était choqué de ce que Abraham a fait. Voilà, honte sur Abraham, honte sur le témoignage pour le seul vrai Dieu en Égypte. Au lieu d'être un missionnaire, un bon missionnaire pour le seul vrai Dieu en Égypte, la honte sur Abraham. Et je suis frappé, nous sommes ici à l'époque de l'ancien empire égyptien. Et nous savons exactement ce que les gens en Égypte ont cru dans cette période. Ils étaient déjà totalement loin du seul vrai Dieu qu'ils avaient encore connu par Noé. Ils étaient pleinement dans l'idolâtrie, mais l'éthique est remarquable. Le Pharaon sait la différence entre moi et toi. Prends ta femme. N'est-ce pas? Dans notre société occidentale, il y a tant d'hommes qui ne savent pas distinguer entre ce qui leur appartient et ce qui appartient à un autre. C'est tragique de voir ça. Et j'étais aussi frappé la dernière fois lorsque j'étais en Inde. Je demande beaucoup de questions lorsque je suis dans tel pays pour apprendre. Et voilà, j'ai demandé, mais comment c'est les couples et la relation de couple? Alors j'ai appris que pour la plupart des hindous, c'est basique d'être fidèle dans le mariage. Et j'ai appris que les hindous sont choqués d'entendre ce qu'on fait en Europe. On vit simplement ensemble, on se sépare, on se divorce, etc. Donc, ça ne veut pas dire que toute la population soit fidèle, mais pour une très grande partie de la population, c'est absolument basique, c'est clair. Il vit dans la profondeur de l'idolâtrie, mais l'éthique est plus haut que l'éthique en Occident. Cela nous montre combien nous sommes tombés de notre culture. Et aussi là, à l'époque de l'ancien empire des Égyptiens, il rend la femme et il n'est pas dit qu'il a redemandé les cadeaux pour le cher frère. Il donne même une délégation pour l'aider à retourner. Voilà le problème. Lot a amené à cette famine et cette famine a amené Abraham à aller en Égypte, à mentir et à apporter de la honte sur le témoignage. Genèse 13. Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il s'en alla en ses traites, du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant. Et Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Voilà le rétablissement. Abraham retourne, mais exactement au lieu où il était auparavant. Nous n'avons pas lu d'un autel d'Abraham en Égypte. Mais il retourne à ce deuxième autel en Cisjordanie. Il invoque le nom de l'Éternel. Voilà, le rétablissement est une chose importante. D'abord, nous avons lu, Abraham est descendu en Égypte, Et maintenant, Abraham monta d'Égypte. Oui, ça décrit la topologie, mais ça a aussi une signification spirituelle. Son chemin est d'aller en bas vers l'Égypte et monter en rapport avec cet rétablissement. Et il est important, lorsqu'un chrétien est allé sur un mauvais chemin, il faut revenir, mais il faut revenir jusqu'au point où on a commencé à dévier. Parce que normalement, la déviation dans notre vie n'est pas ponctuelle. N'est-ce pas? On est en pleine communion avec le Seigneur et tout d'un coup, on tombe. Non, c'est normalement une déviation qui est un chemin. Et à la fin de ce chemin, on peut tomber gravement. Donc, lorsque on veut être rétabli, il faut retourner tout le chemin jusqu'au début. C'est une indication importante aussi pour ceux qui se donnent de la peine pour faire de la relation d'aide. Il faut amener l'âme qui a péché au lieu où elle a commencé à dévier et à s'éloigner de l'Éternel. Et comme ça, on peut être rétabli pleinement. Et souvent, les rétablissements sont seulement superficiellement. Oui, on regrette les graves fautes, mais on n'est pas vraiment intérieurement rétabli. Alors, nous apprenons beaucoup de choses par cette vie d'Abraham. Genèse 13, verset 5. Et Lot aussi, qui allait avec Abraham, avait du menu et du gros bétail et des tentes, et le pays ne pouvait les porter pour qu'ils habitassent ensemble, car leur bien était grand et ils ne pouvaient habiter ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et le Cananéen et le Phérizien habitaient alors dans le pays. Maintenant, tout d'un coup, un grand problème, des querelles. Mais pourquoi il n'y avait pas déjà des querelles avant? Seulement après le retour d'Égypte, eh bien, Lot était un problème dans la vie d'Abraham, qu'il a amené en Égypte, qu'il a amené à mentir. Et par cela, il a reçu beaucoup de richesses. Et ces richesses, il a gardées. Il revient, et voilà, ces richesses de l'Égypte provoquent ces querelles. Et il est grave quand des croyants font des querelles. Et voyez le texte biblique, Moïse l'explique bien, et le Cananéen et le Phérizien, donc le peuple des Cananéens et la tribu des Phérisiens, habitaient alors dans le pays. Pourquoi cette remarque? Pour dire les païens, les idolâtres, ils ont bien observé ce qui se passe dans cette famille d'Abraham, qui devrait être un témoin du vrai Dieu. Et voilà, ils font la même chose comme nous. De nouveau, honte sur le témoignage de Dieu. Mais par conséquent de toutes ces choses qui étaient déjà faux dans le passé. Et ensuite, nous avons la description d'une séparation divine. Et Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de contestation entre moi et toi, et entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Cela veut dire nous sommes parenté. Lui était son neveu, n'est-ce pas? Frère, Achim, en hébreu, a un sens plus large. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu prends la gauche, j'irai à droite, et si tu prends la droite, j'irai à gauche. Il est gentil, oncle Abraham. Il laisse choisir son neveu. Il est prêt à aller de côté, mais il dit « Sépare-toi », ce qu'il aurait dû faire déjà en Ur des Chaldéens. Mais maintenant, il le fait. N'est-ce pas? Il y a des séparations qui sont un péché devant Dieu, mais il y a quelques séparations que la Bible nous enseigne et qui sont des séparations divines. Par exemple, dans le Nouveau Testament, je donne simplement les chapitres. 2 Corinthiens 7, 2 Timothée 2, Hébreux 13 nous parlent de séparation divine, voulue par Dieu. Ce sont des séparations du mal pour rester tout proche du Seigneur. Genèse 13, verset 10. Et Lot leva ses yeux et vit toute la plaine du Jourdain. N'est-ce pas? Le Jourdain descend là, vers la mer morte. Une grande et profonde plaine, c'est la région la plus basse du monde entier. La plaine du Jourdain qui était arrosée partout avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorre. D'ailleurs, des villes qui se trouvaient sur le côté jordanien, ici au sud de la mer morte. On a trouvé les villes. Avant que l'Éternel détruisît Sodome et Gomorre, comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte, quand tu viens à Tsoar. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et Lot partit vers l'Orient. Et ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan. Et Lot habita dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants et grands pécheurs devant l'Éternel. Lot, un Irakien, d'autrefois, choisit cette région, pourquoi? Parce que c'est comme le pays d'Égypte. Le jardin de l'Éternel, il n'a jamais vu. Et le jardin de l'Éternel, le jardin d'Éden, était détruit par le déluge. Mais il avait entendu, c'était très beau, le jardin de l'Éternel. Mais le pays d'Égypte, il a vu. Pourquoi? Parce qu'il a fait un voyage avec oncle Abraham en Égypte. C'est pour ça qu'il choisit la région vers Sodome. Ce qui devient très dangereux pour sa famille et qui ruinera sa famille finalement. Voilà Lot, Égypte, mensonge, richesse, querelle, Sodome. Voilà, Genèse 13, verset 14. Et l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord et vers le midi, et vers l'Orient et vers l'Occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai et à ta semence pour toujours. Et je ferai que ta semence sera comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta semence aussi sera comptée. Lève-toi et promène-toi dans le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Et Abraham leva ses tentes. Il vint et habita auprès des chênes du Mamré qui sont à Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voilà, Abraham s'est séparé. Il reste là où Dieu l'a voulu. Dieu se révèle de nouveau, lui explique, regarde le pays. Mais maintenant, c'est beaucoup plus détaillé. Vers le nord, le midi, l'Orient, l'Occident. Tout, je vais te donner. Et Abraham est obéissant. Et finalement, il va habiter à Hébron. Une des plus grandes villes palestiniennes en territoire dit occupé de la Cisjordanie. C'est quand même remarquable, n'est-ce pas, le texte biblique. Et Hébron veut dire en français communion. Voilà, le blocage est entièrement de côté. Abraham vit dans la communion avec l'Éternel. L'Éternel lui parle. Et aujourd'hui, Dieu nous parle par sa parole écrite. Abraham n'avait pas encore la parole écrite. Mais Dieu nous a donné toute la révélation. On n'a pas le droit d'ajouter encore n'importe quoi, le dit le dernier chapitre de la Bible, n'est-ce pas? Alors il faut écouter, étudier à fond la parole de Dieu pour que nous entendons la voix de Dieu. Et lorsque nous sommes vraiment en pleine communion avec le Seigneur nous parle et nous montre les promesses divines. Voilà le lieu du troisième autel d'Abraham pour remercier toutes ces révélations. Voilà, on n'a pas le temps pour voir tous les détails. Je donne une vue générale. En Genèse 14, Lot est en difficulté, Abraham sauve Lot. Genèse 15, Dieu confirme son alliance à Abraham. Et Genèse 16, Abraham épouse Agar. N'est-ce pas? Depuis des années, ils attendent jusqu'à ce qu'ils auraient un enfant. Parce que le seul vrai Dieu a dit, je te multiplierai. Ils n'ont toujours pas. Mais ils ne sont pas retournés à Ur. Ils ont cru que le seul vrai Dieu, il a le pouvoir de donner. Mais un jour, Sarai explique à Abraham, « J'ai une idée. Avant, tu as une idée. » Oui, mais tu vois la promesse de Dieu. Peut-être il faut prendre la parole de Dieu pas aussi littérale. N'est-ce pas? Il n'a pas dit, j'ai lu un livre de 700 pages qui explique qu'il faut comprendre ça un peu différemment. Pas tout à fait littéral. Tu vois, Agar, notre esclave d'Égypte. La loi au Proche-Orient, parmi les païens à l'époque, c'était effectivement ainsi. Si une femme a une femme esclave, et cette esclave marie l'époux de cette femme, alors l'enfant de la femme en esclavage est considéré comme l'enfant de la femme libre. Tu vois? Et puis tu auras la descendance. Pour moi, c'est plus possible, comme femme. Pour un homme âgé, c'est encore possible. Abraham écoute la voix de Sarai. N'est-ce pas? On peut dire, il faut toujours écouter, et il ne faut jamais écouter la voix de la femme. Mais simplement pour anticiper, en Genèse 21, Dieu dit, Abraham, écoute la voix de Sarai. Là, il fallait, ici, il ne fallait pas. N'est-ce pas? Il faut simplement savoir là où il faut obéir la femme ou là où il ne faut pas obéir. Parce qu'il faut suivre la parole de Dieu. Eh bien, Abraham épouse Agar. Mais pourquoi ils ont une femme d'Égypte? Eh bien, parce qu'Abraham a fait autrefois un voyage en Égypte et il a reçu un cadeau de mariage. Pas seulement des animaux, mais aussi des servantes et des serviteurs. La conséquence de cette désobéissance. Voilà, Lot, Égypte, mensonge, richesse inclus. Agar, mariage, faux mariage. Car la polygamie dans la Bible est dès le début toujours faux. Dieu a créé un homme et une femme. Pas un homme et deux femmes. Parce que c'était le modèle, dès le début de la création, pour l'humanité. Et le premier à changer cela, c'était Lamech, le septième dans la descendance de Caïn, qui s'est complètement éloigné de Dieu. Donc, faux mariage, et la suite, ils ont reçu un enfant, un bébé, Ismaël. Ismaël, qui est devenu le père de tribus arabes, en Arabie Saoudite actuelle. Et de là est sorti Mahomet, fondateur de l'islam, qui enseigne la haine contre les juifs. On peut le prouver par le Coran, qu'il faut haïr les juifs. Ils sont des cochons et des singes. Ils sont à considérer comme ça. Et voilà, l'islam est une conséquence, et avec ça, une haine au Proche-Orient envers Israël jusqu'à aujourd'hui. Donc, des conséquences sur 4000 ans. C'est quand même choquant de voir tout ça. Genèse 17, Dieu confirme son alliance. Et il explique clairement, cette alliance, je ne fais pas avec Ismaël, mais avec Isaac, fils de Sarai. Genèse 18, visite de Dieu à Hébron, vers Abraham. Genèse 19, jugement sur Sodome. Genèse 20, Abraham chez les Philistins. Et enfin, Genèse 21, après 25 ans au pays de Canaan, la naissance d'Isaac. C'est remarquable. Lorsque humainement, c'était impossible d'avoir un enfant, même pour un homme, n'est-ce pas? Charlie Chaplin avait encore un fils lorsqu'il avait 80 à peu près. Mais à 100, il faut oublier. Et la femme, 90, absolument impossible. Donc Dieu a attendu pour montrer à l'humanité que lui est capable, lorsque la biologie interdit strictement une descendance, alors Dieu le sait, pour montrer sa supériorité au-dessus du Dieu de la lune des Sumériens. Mais après Genèse 22, Dieu demande, sacrifie ton fils Isaac. N'est-ce pas? Après tant d'années, ils l'ont enfin, et puis maintenant Dieu dit, je vais l'enlever. Et Abraham est obéissant. Genèse 22 explique, il faut aller au pays de Morija. C'est la région de Salem, où Abraham était déjà, Genèse 14, 18, et il va de nouveau avec Isaac pour le sacrifier. Genèse 22, verset 2, et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Au pays de Morija. Morija, c'est la montagne que vous voyez ici, qui est normalement appelée dans la Bible la montagne de Sion, mais parfois Morija. Et à la pente, sur la pente sud était la petite ville de Salem à l'époque d'Abraham. Alors il fallait aller au pays de Morija, donc où il y a cette montagne très connue, sur la pente sud était bâtie Salem. Et là, sur une des montagnes, il fallait sacrifier. Donc pas sur le mont de Morija. Donc toutes ces traditions où on dit Abraham a voulu sacrifier son fils sur le mont du temple, c'est faux. Il fallait aller vers le mont du temple et là, près du mont du temple, sur une des montagnes, sur une des collines, il fallait sacrifier Isaac. Et Abraham a obéi, mais complètement, pas partiellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans son intérieur? Mais nous connaissons l'histoire, je le suppose, comme Dieu est intervenu en expliquant, j'ai seulement voulu voir si tu es prêt à obéir, il ne faut pas sacrifier Isaac. Et ainsi, il a fait la troisième fois une expérience de résurrection. D'abord, lorsqu'il sa vie spirituelle a repris après la mort de Térakh, après, lorsque biologiquement son corps était mort pour avoir de la descendance, et chez Sarai, le miracle de la vie d'Isaac, et ensuite, lorsqu'il voulait sacrifier Isaac, Dieu intervient. C'était comme une résurrection pour Abraham. Mais ensuite, il a appelé la montagne sur laquelle il voulait sacrifier Isaac, Adonai Yireh, Genèse 22, 14, le Seigneur pourvoira. Genèse 22, 14, en la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu, explique Moïse le nom. N'est-ce pas? Il n'a pas dû sacrifier Isaac, car le sacrifice d'un pécheur n'aide rien pour la bénédiction du monde. Mais on savait un jour, un autre descendant d'Abraham va venir, qui est parfait. Et voilà, Dieu pourvoit le sacrifice sur cette même montagne. Eh bien, 2000 ans plus tard, le Seigneur Jésus est mort sur la colline à côté. Cette colline que Abraham a nommé Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. Voilà le lieu de la crucifixion de Christ. Voilà, Abraham avait comme fils Isaac, lui Jacob. Jacob avait les 12 fils et à travers la ligne de Judas, plus tard, le Seigneur Jésus est entré dans le monde. Le Fils de Dieu qui est venu pour mourir, d'ailleurs là où il y a aujourd'hui l'église du sépulcre, un lieu idolâtre, mais on peut prouver par l'archéologie que c'était effectivement le lieu authentique de la crucifixion. N'est-ce pas? Satan a un intérêt pour rendre impurs les lieux importants dans la Bible. Vous voyez là, la mosque qui se trouve exactement sur le lieu du lieu très saint du temple. Voilà, occupé. Mais ainsi nous savons Christ est effectivement mort et là, au lieu où Abraham a mis son quatrième autel. Et Genèse 22, 18, Dieu dit, « Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. » Et cette semence, c'est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu qui est venu comme sauveur du monde. Et voilà, le Seigneur Jésus, sur cette colline, juste à côté du mont du Temple, au pays du Morija, est mort sur le rocher du Calvaire. Ici, en dehors de la porte du jardin qu'on vient de retrouver il y a plusieurs années. Hébreux 13, 12 dit, « C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. » Et sur cette base, Dieu peut donner à Israël le pays promis, sans qu'ils l'ont mérité, mais sur la base de la grâce. Et nous pouvons être sauvés, recevoir ces bénédictions d'Abraham, non pas des mérites, par des bonnes œuvres, mais en croyant que le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés sur le rocher du Calvaire. Ainsi, nous voyons donc ce drame de l'histoire d'Abraham qui a donc un impact pour le monde entier, dans toutes les directions, et particulièrement pour cette promesse de bénédiction pour toutes les nations, pour tous les peuples, pour toutes les tribus, pour toutes les langues, par l'œuvre du Seigneur Jésus. Nous voyons comme nous pouvons apprendre tant de choses par la vie d'Abraham, et nous voyons que dans la vie d'un croyant, on ne peut pas dire, « Oui, alors si je me trompe, si je pêche, je peux demander pardon. » Non. Nous avons affaire avec un Dieu qui pardonne. Lorsque notre regret est sincère, notre confession de péché est sincère, mais des conséquences peuvent rester pour toute la vie, même pour les descendants, même pour l'histoire. Et pourquoi cela? Pour nous apprendre qu'il ne faut pas jouer, jamais jouer avec le péché. Il faut être sérieux, mais il faut se confier entièrement en ce Dieu de la gloire qui nous appelle à le suivre, le seul vrai Dieu qui se distingue de toutes ces idoles dans le monde entier. Merci de votre attention.